Bonsoir. Le président de la République n'a visiblement pas l'intention de laisser sa chaise vide à l'étranger. Et cette fois, c'est Forum Africa CEO, organisé à Kigali au Rwanda, qui a connu la participation de Félix Tshisekedi, le président de la RDC, qui y était pour échanger sur la mise en place du marché unique africain. Et Félix Tshisekedi a, entre autres, évoqué l'eau et le potentiel énergétique de la RDC comme apport du pays dans cette construction continentale. Ebola, encore elle, ne veut visiblement pas quitter la RDC. L'épidémie déclarée depuis août dernier au Nord Kivu et à Ituri n'est toujours pas vaincue et vient même de franchir la barre de 1000 personnes contaminées. Nous abordons ces sujets dans un instant et pour évoquer ces actualités, nous accueillons Pius Romain Roland-Ngoy, journaliste indépendant. Bonsoir.
Bonsoir, cher Donald.
Et Joël Kadet Ndanga, éditeur du journal Impact News, paraissant à Kinshasa. Joël Kadet Ndanga, bonsoir.
Bonsoir, chers confrères, bonsoir aux auditeurs de la Radio de la Paix.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission. Et mettons-nous tout de suite en condition avec cette revue de presse.
Bonsoir. La visite du président Félix Tshisekedi au Rwanda dans le cadre de l'Africa CEO Forum et la persistance de la maladie à virus Ebola dans le Nord Kivu et Ituri ont occupé une large place dans les médias cette semaine. Parlons de l'Africa CEO Forum. Actualité.cd évoque la proximité économique et historique qui lie le Rwanda et la République démocratique du Congo, deux pays qui partagent une frontière commune depuis que le monde existe. Ce média cite Félix Tshisekedi évoque de nombreuses initiatives qui peuvent être développées entre les pays de la région. À Kigali, Félix Tshisekedi a réitéré sa volonté de relancer l'économie de la RDC à travers la lutte contre la corruption. Note pour sa part cas-info.ca. C'est dans ce cadre que ce média en ligne est revenu sur la promesse faite aux hommes d'affaires par le président congolais de mener des réformes institutionnelles et d'assainir le milieu d'affaires au Congo-Kinshasa en vue de permettre des investissements. Par ailleurs, en marge de la 7e édition de ce forum Africa CEO, c'est sur 7.cd, parle de Félix Tshisekedi qui a exprimé la volonté de son pays, la RDC, à offrir ses bons offices pour la résolution de la crise entre le Rwanda et l'Ouganda. À propos de la participation de Félix Tshisekedi au Forum Africa CEO, Forum des As renseigne que le président de la RDC a pris la parole pour présenter à ses hôtes son projet de relance économique à la communauté des investisseurs internationaux et chefs d'entreprise réunis à ses assises. Parlons à présent de l'épidémie d'Ebola. Le potentiel online.net titre la maladie à virus Ebola sévissant dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri depuis le 1er août 2018 a franchi dimanche 24 mars le seuil des 1000 cas, confirmant ainsi sa position de la plus meurtrière épidémie d'Ebola enregistrée en RDC. Se référant au communiqué du ministère de la Santé publique qui indique que l'épidémie a atteint le cumul de 1009 cas, dont 944 confirmés et 65 probables dans la province du Nord Kivu avant de se répandre dans l'Ituri. DigitalCongo.net qui reprend le communiqué du ministère de la Santé informant que l'épidémie d'Ebola qui sévit dans la partie nord de la République démocratique du Congo depuis le mois d'août dernier vient de dépasser le seuil de 1000 cas depuis le dimanche 24 mars 2019. À ce jour, note Oli Ilunga dans ce communiqué, 629 personnes sont décédées. Pour les 321 personnes guéries qui ont eu la chance de surmonter cette douloureuse épreuve, le retour à la maison ne s'est fait pas toujours sans difficulté, souligne-t-il. Le ministre souligne que malgré les avancées médicales enregistrées, seule l'appropriation de la riposte contre Ebola par la communauté peut conduire à la fin définitive de la maladie à virus Ebola, la plus meurtrière de l'histoire de la RDC.
Merci Kelly Nkouté. Pius Romain Roland Ngoy, avant notre débat proprement dit, quel commentaire d'actualité voulez-vous partager avec nous à ce stade?
Oui, Donald, vous vous souviendrez que chaque fois quand je passe sur cette radio, suivie à travers le monde, j'ai déploré toujours l'état de délabrement de nos routes. Vous le savez, que ce soit l'environnement qui était malsain, que ce soit les montagnes des immondices, mais je salue quand même, il faut le dire, le chef de l'État a pris les taureaux par les cornes. Il y a les avenues qui commencent à revêtir de la chaussée,
du béton.
Du béton également. Et je l'ai toujours dit, à Kinshasa, il n'y a pas de véhicules. Il n'y a pas de véhicules à Kinshasa, il n'y a pas 1 million de véhicules à Kinshasa. Mais il y a de l'embouteillage puisque Kinshasa est dépourvu des routes. Alors que c'est une ville très urbanisée. Mais les routes sont dans un mauvais état. Et je le disais chaque fois, vous allez voir un petit trou qui se crée au milieu de la route, au lieu de venir l'étoffer. Mais on va laisser jusqu'à ce que ce trou va prendre du volume, va détruire toute la chaussée. Et regardez maintenant, ce sont les embouteillages par-ci, par-là. Mais je le disais chaque fois que la route, c'est un vecteur de développement économique. Sans route, on ne peut rien faire. Et aujourd'hui, je pense que avec le programme de 100 jours du chef de l'État, en commençant par les secteurs routiers, et vous allez voir que la vie sera normale. Mais j'ai toujours dit aussi qu'il faut délocaliser le marché central de Kinshasa. Il faut délocaliser l'aérodrome de Ndolo. C'est inconcevable.
Il faut les délocaliser selon vous, les amener où?
Voilà, c'est une bonne question. À la place de l'aérodrome de Ndolo, on peut construire un aérodrome dans la partie est de la capitale. Si Kimbuta a trouvé le site pour mettre le cimetière, on ne manquera pas le site pour construire l'aérodrome. Parce que c'est un conseil. Vous vous souvenez le drame qui s'était passé au marché des Tipka. On délocalise le marché central. Là où se trouve le marché central actuellement, il faut construire les centres commerciaux attractifs, susceptibles de générer de l'argent à la ville. Pour se regarder les immondices qui sont autour du marché, ce sont les immondices qui créent des très sérieux problèmes dans la ville. La chaussée, la route, le roi Kading pris en otage, c'est commerce qui souffre énormément. Et à la place de l'aérodrome d'Ndolo, on construit un marché moderne. Et vous allez voir que Kinshasa sera détendu. C'est ça les plans de développement. On ne peut pas, il faut délocaliser également les camps militaires. Ces camps militaires ont été construits par les colons pour empêcher les habitants. Tu prends par exemple le camp Lofungo là. C'est pour empêcher les autochtones de Lingwala, de Kinshasa, de ne pas franchir Kalina. Vous prenez Ndolo, c'était la même chose. Mais il faut délocaliser, il faut construire une ville moderne dans ces milieux-là. Voilà ma préoccupation que je pourrais même dire aux candidats gouverneurs de Kinshasa. S'ils n'ont pas de la matière, qu'ils nous demandent, nous, merci, les communicateurs, nous pouvons leur donner de la matière.
Merci Pius Romain Roland Goy pour ses contributions. Joël Kadé Ndanga, votre commentaire libre.
Non, c'est l'actualité a été dominée à la fin de la semaine passée par la fin de la mission qui a été donnée à Martin Fayoulou par Jean-Pierre Bemba, qui a mis fin à sa mission pour dire que désormais la Moka va se transformer en une plateforme politique. Mais moi je crois qu'il est temps que Moïse Katumbi comprenne qu'il ne doit plus se faire exploiter par certains fanfarons autour de lui, qu'il est temps qu'il crée son propre parti politique où il saura matérialiser la vision politique qu'il entend concrétisé dans notre pays. Et en conséquence, que Martin Fayoulou quitte la Mouka pour revenir consolider son aura qu'il a obtenu au niveau national. Martin Fayoulou n'était pas connu dans mon village, aujourd'hui il est connu. Je crois qu'il est temps que son parti SID, qu'il puisse se battre pour consolider également son ancrage qu'il a eu à obtenir lors des dernières élections. Et je crois que c'est le moment, au lieu de continuer à livrer les concerts, à danser, à chanter, et il est donc temps qu'il apporte, je ne vois pas, Martin Fayoulou, c'est le plus tshisekédiste que même Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, qu'il apporte son concours à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la reconstruction, dans la relance de notre pays, comme mon confrère venait de le reconnaître et de le saluer, à travers les travaux de 100 jours d'urgence, il y a lieu donc qu'il soit là. Il faut aussi
mais pourquoi Martin Fayoulou quitterait-il la Mouka, qui compte devenir une plateforme politique et qui peut continuer à lui donner le soutien
Non, c'est un conglomérat des aventuriers. Il n'y avait aucune vision, il n'y avait aucun idéal. Il est maintenant temps que chacun puisse matérialiser sa vision. Vous voyez, Moïse Katumbi, tous ceux qui se sont agglutinés à lui, il ne suivait que de l'argent. Il n'y a personne qui suivait Moïse par un idéal, par un objectif politique. Mais il faut aussi saluer les auditions qu'a commencé déjà le procureur, tous les parquets, après les cours d'appel et après la cour de cassation en ce qui concerne la corruption. Particulièrement au Katanga, il y a eu un gouverneur, la vidéo circule, le gouverneur Pandé Kapopo, qui promet, qui dit, avant que je quitte mon poste de gouverneur, je vais vous servir, je vais vous donner l'argent du trésor public. Je crois que ça ne demande pas une investigation, une enquête. Les images sont là, les vidéos sont là. C'est le seul élément qui peut pas être mise en doute. Il faudrait que le procureur général près la cour d'appel de Lubumbashi puisse poursuivre le gouverneur, qu'il soit entendu pour promettre aux députés provinciaux qu'il va leur donner de l'argent.
Merci Joël Kadendanga. Commençons donc notre premier thème de ce soir, la 7e édition du Forum Africa CEO sur le marché unique africain, organisé pendant 2 jours à Kigali au Rwanda, s'est clôturé mardi. S'exprimant sur la question énergétique, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a indiqué que l'eau et l'électricité restent une bataille à gagner par tous les moyens disponibles en RDC pour ses propres intérêts, mais aussi ceux des partenaires africains. On l'écoute.
Je pense que si Inga se développe dans toutes ses phases, donc jusqu'à la phase 8, nous aurons 44 000 mégawatts à fournir. D'autre part, nous avons plus de 200 sites à l'intérieur du Congo qui peuvent également fournir de l'énergie. À peu près mis ensemble, on arriverait à 60 000 mégawatts. Donc vous voyez qu'il y a d'énormes possibilités. Au sujet de l'eau, qui est aussi une des batailles à venir, on peut réfléchir à des solutions du style au niveau de l'embouchure, juste un petit peu avant la rencontre avec les eaux de l'océan. Il y a moyen de capter cette eau du fleuve et de l'envoyer via des pipelines à des pays qui en ont besoin. On a proposé à un moment donné au Tchad le fait de dévier le fleuve Ubangi, ce qui va avoir des conséquences. Donc, nous pensons qu'il y a d'autres solutions et la RDC est prête à les proposer à ses partenaires africains pour réussir cette intégration qui nous tient tant à cœur.
C'était le président de la République, Félix Tshisekedi. Pius Romain Roland Goy, pendant tout le propos du président de la République, je vous ai vu secouer la tête et sourire. Tout à l'heure, vous nous diriez si c'est parce que vous êtes d'accord ou parce que vous avez autre chose à dire. Mais de manière générale, quelle lecture faites-vous de cette 7e édition de ce forum CEO et surtout de la participation de la RDC à ce rendez-vous?
Bon, il est vrai que la République démocratique du Congo doit affirmer son leadership au centre de l'Afrique. Vu les potentialités que nous avons, le chef de l'État vient de le reconnaître d'ailleurs. Mais vous avez dit que j'ai souri tantôt. Pourquoi? Puisque vous savez que cette histoire de l'eau a défrayé la chronique avec le Tchad, les pays du Sahel qui voulaient prendre de l'eau, mais l'Assemblée nationale qui traitait ces dossiers. Je me souviens, il y avait même les représentants du Tchad qui sont venus ici. L'Assemblée nationale les avait renvoyés. Vous avez besoin de l'eau, mais on ne peut pas vous les refuser. Mais pas les tirer au niveau de l'Ubangi. Ça, c'est sécher, même aller les tirer à l'embouchure. Et le chef de l'État l'a reconnu. Donc, il a répété ce que l'Assemblée nationale, la législature passée, avait pris comme recommandation et refus au Tchad. La République démocratique du Congo avait refusé avec l'eau. Pas question de prendre l'eau à Lubangi. Vous, si vous avez besoin de l'eau, on ne peut pas vous les refuser, mais construisez un pipeline au niveau de l'embouchure. Et
donc le président de la République a bien répondu.
Il a bien répondu et il a relayé les souhaits des
Congolais,
les conclusions du Parlement, des experts du pays. S'agissant de l'énergie, bon, je me dis avant de servir les pays voisins, il faut d'abord que les autochtones soient servis. Kinshasa est plein de délaissages. Au moment où je te parle, je ne sais pas si chez moi il y a l'électricité. Alors, qui a abîmé Inga? Mais c'est là où il est parti, au Rwanda, avec le RCD qui est venu mettre du sable. Il fallait dire au Rwanda de venir arranger les Inga qu'il a abîmé. Qui oublie qu'en 98, quand on nous a attaqué ici, Mbutayero Diapé a son âme. Mais il avait dit, refusez à ces gens-là même, les Magnons qui sont allés mettre le sable, il y a les gens qui sont morts dans des maternités, dans les hôpitaux.
Est-ce que vous en avez les preuves?
Non, quand même.
Bah, mais le pays est bien placé. Connaissant ce problème, je ne refuse pas. Hein, vous pouvez avoir raison.
Pourquoi est-ce que
les experts du pays ne portent pas plainte contre le Rwanda officiellement pour pouvoir obtenir réparation?
Il y a des plaintes. Il y en a. Et je prends le cas de l'Ouganda. L'Ouganda doit combien à la République démocratique du Congo? 50 milliards de dollars. N'est-ce pas? À la République démocratique. Il y a des plaintes dans des tribunaux internationaux. Mais, et vous vous souviendrez même l'épisode avec le ministre auprès du premier ministre, Tshibangu Kalal. C'est la plainte de la RDC contre l'Ouganda. Donc, le Congo doit affirmer son leadership. Et pour affirmer le leadership, le Congo doit d'abord servir les autochtones. Il n'y a pas de l'eau à Kinsenso, il n'y a pas de l'eau. À Selembao, il n'y a pas de l'eau. Dans d'autres communes, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas l'électricité. Donc, pour affirmer ce leadership, le Congo doit servir son peuple. Il y a eu plus de 200 barrages. Mais le Congo doit chercher les investisseurs. Les investisseurs ne viendront pas du Rwanda, excusez-moi. Le Rwanda nous doit beaucoup.
Mais puis, Romain Roland, est-ce que pour vous, vous pensez que la RDC ne devrait pas mettre sur le marché à concurrence de paiement son potentiel en eau, son potentiel en forêt? Vous pensez que la RDC ne devait pas utiliser ses ressources pour se faire des recettes?
La RDC l'a toujours utilisé. On sait que le barrage d'Inga serve combien de pays? Il y a l'Égypte, il y a Congo-Brazzaville, il y a l'Angola, l'Afrique du Sud et la Zambie.
Ce serait plutôt une bonne chose, non? RDC peut servir même le monde entier à concurrence d'argent.
Tout à fait, ça serait une bonne chose. Mais vous ne pouvez pas servir l'extérieur tant que vos propres fils en manquent. C'est aberrant. Il faut d'abord que... Je vous ai dit au moment où je te parle, peut-être ici, dans les studios, bientôt le courant va s'interrompre.
On n'espère pas.
Voilà. Alors vous le savez, au moment où je vous parle, il y a des coins où il n'y a pas le courant. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Vous avez le barrage d'Inga, vous avez 200 barrages, vous avez Moba Mbongo, vous avez Zongo. Mais les Congolais n'ont pas le courant. Vous voulez servir l'extérieur? Non, commencez d'abord par servir l'intérieur. Quand vous aurez la paix à l'intérieur, quand le peuple est servi, même les investisseurs, quand ils vont trouver que le peuple est rassasié, maintenant ils vont investir pour que le pays capitalise de l'argent et cet argent va permettre à ce que le peuple se retrouve. C'est pas le peuple par slogan. Il faut que le peuple se retrouve par ses potentialités. Et les potentialités, comme vous le dites, d'ailleurs, nous avons étudié il y a longtemps que la Troisième Guerre mondiale aura comme champ de bataille la République démocratique du Congo à cause de l'eau. Mais nous avons des rivières et des ruisseaux. Moi, je viens d'Inongo. Il n'y a pas de robinet. Où se trouve la régie des eaux?
Merci, Pius Romain Roland. On espère qu'il n'y aura aucune guerre du tout, ni en République démocratique du Congo, ni ailleurs, ni une troisième guerre mondiale. Il y en a déjà eu trop. Joël Kadet Ndanga, quelle analyse faites-vous de ce rendez-vous rwandais?
Non, il faut d'abord saluer que le retour de la République démocratique du Congo en Afrique et dans le monde. Bientôt, au début du mois d'avril, le chef de l'État sera aux États-Unis d'Amérique. Et non seulement que la République démocratique du Congo est rentrée en Afrique, mais vous sentez que le chef de l'État maîtrise toutes les questions qu'il s'agisse de l'environnement, qu'il s'agisse des affaires, qu'il s'agisse de l'énergie, qu'il s'agisse de l'eau, il maîtrise toutes les questions qui lui sont posées. Et la voix de la RDC est entendue aujourd'hui. Depuis un temps, on avait un chef de l'État taiseux, comme Mendel l'avait dit. Donc, il ne pouvait même pas parler dans des rencontres comme celle-là. Donc, la RDC était inaudible. Et là, il faut d'abord saluer cela. Et la deuxième chose qu'il faut saluer, c'est sa maîtrise des questions de la RDC. Vous avez entendu qu'il est revenu. Et là, c'est quelqu'un qui a étudié, qui a lu, avant d'aller là-bas, les conclusions de l'Assemblée nationale. À l'époque, Pio, c'était assistant parlementaire, il était journaliste accrédité à l'Assemblée nationale. J'étais à cette plénière où on avait refusé de donner l'eau au Tchad à partir du fleuve Oubangui. Pourquoi l'avait-on refusé? Parce que si on donnait de l'eau là-bas, ça allait avoir des répercussions environnementales sur tous les autres affluents qui sont en train d'approvisionner le fleuve Congo. Et donc, il y a lieu de comprendre qu'il a étudié bien la question et qu'il a donné la réponse. En termes de barrage, je vous dis, chers confrères, j'avais rencontré Kelly, comme elle voyage trop en international, à l'aéroport d'Entebbe.
Vous parlez de notre Kelly Nkouté.
Oui, elle voyage trop. La dernière fois, j'étais dans l'est de la RDC. Il y a une entreprise locale, interprovinciale Build, conduite par un jeune homme qui est moins âgé que moi, Monsieur Feni Iobé. Il a construit 4 barrages à partir des petites rivières dans la province de Haute-Ouélé. Donc vous allez voir. Et ces barrages ont été financés par l'entreprise Kibale Gold Mining. Et dans moins de 10 ans, l'entreprise Kibale n'utilise plus du pétrole, de l'essence ou du mazout pour alimenter ces stations thermiques. Et donc, il y a lieu, aujourd'hui, la RDC, nous avons beaucoup des rivières, nous avons beaucoup de fleuves, nous avons. Donc vous ne pouvez pas faire 10 kilomètres en République démocratique du Congo sans trouver une rivière. Donc aujourd'hui, si on peut laisser cette expertise, par exemple à IOB, et même avec un financement qui peut venir encore de Kibali, qui a été transformé en barrique, donc si on peut laisser cette entreprise-là venir ici à Kinshasa, avec la rivière Ndjili, la rivière Kalamu, avec ce que nous avons comme rivière, la rivière Ngombe, donc on peut nous construire 4 barrages, tout simplement, c'est ce que Pius Romain Roland disait, pour alimenter Kinshasa. Parce que le fait de nous concentrer sur Inga, ça nous distrait. Et vous avez posé une question à Pius, à laquelle il n'a pas répondu. Donc la RDC peut mettre en vente non seulement son eau, mais également son énergie électrique. Mais ça a toujours été mis en vente depuis tout ce temps, vous rappellerez, du scandale des 32 milliards de dollars à la SNEL que le directeur de cabinet du chef de l'État, M. Évariste Boshab, avait détourné, qui n'ont jamais été versés dans les comptes du Trésor public. Jusqu'aujourd'hui, les enquêtes se sont interrompues. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a lieu de servir tout Congolais. Et tout ce qui manquait à ce pays, c'était la volonté politique. Et comme on sent la volonté politique dans le chef du président de la République, nous croyons qu'il peut permettre aux autres entreprises locales, aux investisseurs qui sont là, de telle sorte qu'ils puissent construire des petits barrages, qu'on ne puisse pas se concentrer sur Inga. Des petits barrages comme Iobé l'a fait à Doko et à Durba. Donc on peut construire ces petits barrages-là, qu'il s'agisse d'ici, Kananga ici de suite. Vous vous rappelez, quand vous partez dans toutes les missions catholiques, il y a des tout petits barrages-là qui alimentent. Donc on n'a pas besoin toujours de se concentrer sur Inga qui demande un grand financement. Nous pouvons alimenter le monde entier avec notre énergie électrique.
Joël Kadendanga, quand on parle de production des pays africains qui doivent les mettre en commun pour une intégration ou pour en tirer profit de manière globale sur le continent, et comme pour le cas de cette activité de marché unique africain, la RDC brandit très souvent les mêmes choses comme apport. Si ce n'est pas l'eau, c'est l'électricité ou parfois les forêts. Est-ce que la RDC, en dehors de ses ressources naturelles, n'a pas un autre produit, n'a pas d'autres articles à proposer sur le grand marché continental africain?
Chers confrères, je vais vous raconter une anecdote. C'est le professeur Lunda Bululu qui nous la raconte en deuxième graduat. Quand il donnait son cours de droit administratif, il disait, quand Dieu a créé le monde entier, il a versé toutes les richesses du monde en République démocratique du Congo. Alors les anges ont commencé à lui poser la question, mais pourquoi vous avez tout versé en RDC et non ailleurs? Et même la Bible déclare en Ésaïe 18 que c'est un pays de beaucoup de fleuves. Alors le Dieu va répondre aux anges, laissez.
Mais ça reste une anecdote, ça.
Je vais y verser un peuple idiot qui ne sera pas exploité pour servir le monde entier. Donc, la RDC a toutes les richesses du monde. C'est le pays le plus riche du monde. Tout ce qui manquait à la RDC, c'est un leadership qui puisse transformer ses potentialités en richesses normales qui peuvent être redistribuées à tous les Congolais.
Apparemment, donc, il y a d'autres apports que la RDC peut donner, mais c'est lesquels?
Nous avons tout en termes de, d'abord en termes de richesses naturelles, les minerais, l'eau, l'énergie,
l'énergie. Ça c'est connu. Et le pays est parmi les plus pauvres.
La plus grande richesse.
Selon les nombreuses enquêtes.
Oui.
Mais est-ce qu'il faut continuer à brandir comme apport les mêmes choses pour lesquelles le pays ne bénéficie pas?
Nous avons les ressources humaines. Vous travaillez dans un organisme international, vous travaillez aux Nations Unies, vous savez quand les mandats de vos collègues étrangers finissent, vous sentez comment ils pleurent. Parce que nous avons les ressources humaines, surtout le plan, et ces ressources humaines-là, la RDC, c'est un marché. C'est ainsi que vous voyez nos frères indo-pakistanais venir ici en babouche, à pied, on l'appelle à l'aéroport patron, et quand il arrive ici, dans moins d'une année, il devient millionnaire. Il gagne son capital et il expédie ou exporte tous les capitaux en devises dans leur pays d'origine.
Donc Joël Kadendanga, la matière grise congolaise pourrait être une ressource à mettre dans le marché congolais.
Les ressources humaines.
Mais vous constatez que dans les organisations internationales, malheureusement, cette matière grise congolaise n'est pas mise à profit.
Non, nous avons des grands médecins dans le monde. Nous avons des grands médecins dans le monde. Nous avons... Partez à l'étranger, vous allez sentir que dans beaucoup de domaines, ce sont les Congolais qui sont des experts. Qu'il s'agisse de l'Afrique, des États-Unis d'Amérique, de quoi. Il n'y a pas un médecin de la hauteur de Kachala aux États-Unis d'Amérique. Mais malheureusement, cette expertise-là, il ne peut pas la mettre au service de la RDC parce que il n'y a pas une politique qui permet l'épanouissement des Congolais pour les Congolais. Ici, chez nous, vous allez voir que chaque Indo-Pakistanais, heureusement qu'aujourd'hui, on vient de retirer sur instruction du chef de l'État les policiers pour la sécurité des personnes morales ou physiques privées, pour qu'ils puissent s'occuper réellement de l'État. Vous avez vu que tout Indo-Pakistanais avait son général, son colonel, ainsi de suite. Et les Congolais vivent comme sous procuration dans leur propre pays.
Merci.
Il nous faut aujourd'hui tout simplement que l'on développe une politique où les Congolais est placé en première position, et pour cela, j'encourage le chef de l'État comme il a commencé déjà à le faire.
Y compris le capital humain, comme vous le disiez tantôt. Merci, Joël Kadendanga. Romain Roland, vous avez la parole. Soyez calme. Ouais. Vous avez la parole. Une minute. Pour apporter votre complément.
Mais
apparemment, vous avez des choses à dire.
L'anecdote de Joël c'est contredit.
Qui reste une allégorie.
Mais qui s'est contredit. Il dit que les anges, Dieu a fait descendre toutes les richesses sur le sol congolais et que les anges s'en ont plein. Et Dieu a dit non, tranquillisez-vous, vous allez voir, je vais leur donner un peuple idiot. Et entre-temps, il dit que les Congolais ont une ressource humaine à vendre. Je voulais dire ceci.
Très rapidement, et puis vous réagissez à la question.
La République démocratique du Congo a des potentialités susceptibles de vendre sur le marché continental. Le problème qui est là, c'est quoi?
Vous voulez dire un potentiel qui soit différent de l'eau, de l'électricité, les autres qu'on a l'habitude de vendre.
On peut le mettre.
Quel est ce potentiel?
Nous avons la terre arable. Nous en avons beaucoup. Nous avons la forêt. Nous avons le faune. Nous avons
beaucoup alors.
Mais ça reste, ça reste des ressources naturelles, Pius Romain Rolland.
Voilà.
Le
problème qui est là, c'est quoi? C'est le statut de la République démocratique du Congo par rapport à la communauté internationale. Le Congo, c'est un pays convoité où on a mis le peuple congolais dans des conditions qui ne peuvent pas s'épanouir. Regardez Inga, vous avez parlé de Inga. Joël Kadé l'a dit, il ne faut pas qu'on nous distrait avec Inga.
Chutez, il vous reste quelques secondes.
Je chute. Inga était construit pour l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Est-ce que nous avons des industries ici susceptibles de transformer nos matières? On nous empêche par la politique extérieure et la politique interne que les Congolais s'épanouissent et que vendent leurs matières à l'extérieur, puisque la peur du monde, une fois les Congos se met debout, l'Afrique se met debout, et l'Afrique va échapper entre les mains des prédateurs européens.
Merci Pius Romain Rolland. Nous avons le temps pour aborder notre deuxième sujet de ce soir. L'épidémie à virus Ebola qui sévit dans les provinces du Nord Kivu et en Ituri depuis 8 mois vient de dépasser le seuil de 1000 cas. Le ministère de la Santé publique, qui l'annonce dans un communiqué publié dimanche, invite les personnes considérées comme des leaders d'opinion à s'engager positivement en partageant des messages qui favorise l'adhésion de la communauté dans la riposte contre Ebola. Plus de détails avec Martial Papimukeba.
Jusqu'à ces jours, selon le ministère de la Santé, les 1000 des cas d'Ebola au Nord Kivu et en Ituri est de 1009 pour un total de 629 décès et 321 personnes guéries. Dans son communiqué, le ministère de la Santé dit que derrière ces chiffres se trouvent plusieurs centaines de familles congolaises directement touchées par Ebola et des centaines d'orphelins. La riposte conduite sous le leadership du ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires, a permis de limiter l'extension géographique de l'épidémie pendant plus de 8 mois. À ces jours, l'épidémie ne s'est pas propagée dans les autres provinces de la RDC ni dans les pays voisins, bien que les risques restent présents, rapporte le ministère de la Santé. Ce communiqué révèle que la vaccination ciblée a permis de protéger plus de 91 000 personnes, dont près de 23 000 contacts à haut risque et a été en contact direct avec des patients confirmés d'Ebola. L'amélioration de la qualité des soins de support et l'utilisation des molécules thérapeutiques ont permis d'augmenter les taux de survie moyens dans les centres de traitement Ebola CTE à plus de 60%. Ainsi, plus de 6 personnes sur 10 qui sont admises au CTE survivent, précise le ministère de la Santé. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Pius Romain Rolland, presque 8 mois, Ebola continue de progresser en RDC et continue de tuer. Votre réaction?
Je compatis d'abord au malheur de mes frères à l'Est qui ont beaucoup souffert avec la guerre, l'insécurité, les kidnappings, et voilà encore un autre malheur qui s'ajoute dans cette partie de la République démocratique du Congo. Mais mon ami et frère et confrère Joël a dit, la République démocratique du Congo a des bons médecins. Il n'y a pas plus grand médecin comme Kachala aux États-Unis. Mais je me pose la question.
Il y a aussi Muyembe.
Il y a aussi Muyembe.
Il y a aussi Mukwege, le
tout Nobel à fait. De la paix. Nous avons riposté au Libéria, en Guinée, dans d'autres pays où il y avait Ebola. Nous avons mis fin à cette épidémie. Pourquoi pas ici chez nous à l'Est? 8 mois, ça n'est de trop quand même. Je ne veux pas me lancer dans ce que le président russe a dit que nous avons lu sur les réseaux sociaux, accusant un multimilliardaire de philanthrope à la base de la propagation de cette épidémie.
Nous attendons d'avoir plus d'explications et des confirmations indiscutables.
Mais moi, l'inquiétude, c'est que l'expertise congolaise qui a su mettre fin à l'épidémie dans d'autres pays, et même à l'Équateur, là où ça a commencé, c'est dans moins de 3 mois, 2 mois, 3 mois, ils avaient déjà mis fin à ça. Mais ça fait 8 mois. Il faut les soulever aussi. Il y a un problème d'insécurité. Il y a des centres qui ont été attaqués par les inciviques sous la couverture des multinationales qui cherchent toujours à piller nos ressources à l'est de la République. C'est inquiétant. J'en appelle à la communauté internationale pour ce cas ici, qui est un cas humanitaire. Il faut que tous les organismes internationaux ou toutes les organisations, y compris les Nations Unies par l'OMS, à mettre fin à cette épidémie. Puisque si cette épidémie franchissait la frontière et se retrouve dans d'autres pays et qu'on n'arrive pas à mettre fin, c'est encore une autre catastrophe.
Plus, Romain Roland, selon vous, est-ce que c'est une difficulté médicale, clinique, qui empêche la victoire sur cette épidémie d'Ebola? Vous avez cité des cas d'autres flambées d'Ebola qui ont été vaincus dans l'Équateur et dans d'autres parties de la République démocratique du Congo. Est-ce un problème médical ou c'est plutôt l'argument majeur, la situation d'insécurité qui sévit dans cette partie du pays?
Je dirais oui et non. Oui, c'est un argument majeur puisque il y a l'insécurité dans cette partie de la République. Le médecin, soit, craigne de perdre leur vie. Et plus il n'y a pas riposte, plus ça se propage. Non.
Mais aussi de nombreuses attaques contre les centres de traitement.
Tout à fait.
Ce sont des faits qui ne sont jamais survenus dans d'autres cas.
Tout à fait. Non, je l'ai dit, puisque l'épidémie dans cette partie de la République, elle est différente des autres épidémies qu'on a vaincues dans d'autres pays. Ici, ça semble être un peu difficile.
Vous voulez dire que c'est une vague plus virulente?
C'est une vague plus virulente puisque nous sommes à plus de 900 vies humaines déjà perdues en espace de 8 mois. Or, comme je le dis tantôt, s'il n'y avait pas l'insécurité, peut-être on pouvait vaincre. Puisque nous avons des bons médecins, qui sont en Afrique du Sud, qui sont en Zambie, qui sont en France, partout ailleurs, même en Angola, même ici à Brazzaville.
Donc vous pensez que si on arrive à mettre fin à l'insécurité,
il est possible de vaincre, puisque nous avons une main-d'œuvre qualifiée.
Joël Kadendanga, qu'est-ce que vous pensez? Ebola traîne depuis plus de 6 mois. À l'est du pays, au nord Kivu et en Ituri, qu'est-ce qui, selon vous, explique cela?
Non, c'est l'échec de Dr. Oli Ilunga. Il ne maîtrise pas les réalités de la RDC.
Mais c'est pas le ministre qui est sur le terrain. Il a ses équipes expertes.
Il a truffé son cabinet de plein de ses enfants et consorts qui ne maîtrisent pas les réalités de la RDC.
Vous avez peut-être raison.
Mais
sur le terrain, c'est les experts du pays.
On a vu Dr. Félix Kabangé. Il est vivant, il est ministre, je crois, de l'urbanisme. Il a été élu, il est au Parlement. Pourquoi ne pas faire recours à quelqu'un, une expertise qui est déjà établie? Docteur Momat, Félix Momat est là, qui ont lutté et qui ont été. J'ai vu Kabangé sur le vélo, j'ai vu Docteur Kaba, Félix Momat sur le vélo, dans les pirogues, dans ceci, dans cela, pour encadrer les équipes qui étaient sur place. Mais ici, on a établi un détournement de fonds que la communauté internationale a mis au service de la lutte contre Ebola.
Mais l'actuel ministre de la Santé publique est aussi sur le terrain.
S'il vous plaît, il est
à l'Est.
Qu'on se dise des vérités.
Dis-nous les vérités.
Les vérités, c'est quoi? Oli ne maîtrise pas les réalités du Congo et il a peur. Vous avez vu, même quand il s'est lancé dans les sénatoriales, il s'est retiré. Au lieu d'aller dans sa propre province, il est allé à Kananga. Donc, il est dans une confusion.
Est-ce que vous pouvez nous dire exactement quel est le rôle non efficace que le ministre actuel de la Santé aurait joué? Parce que j'ai l'impression que c'est les mêmes experts du pays, les mêmes équipes qui travaillent.
Mais les mêmes experts, ils ont besoin. Papa, on dit ceci, le poisson commence à pourrir par la tête. Vous avez vu, je vous donne le cas. Nous avons été ici et Dr. Félix Kabangé tenait les conférences de presse chaque semaine pour faire le rapport de ce qui se passait sur le terrain. Mais lui, ce sont des communiqués. Tout ça pourquoi? Parce que son cabinet, il n'y a pas d'experts congolais pour les envoyer s'attaquer à la maladie. C'est une expérience qu'on a déjà vécue, c'est la 4e ou la 5e fois. Nous avons eu des ministres qui maîtrisent le Congo. Vous à l'Équateur également, à l'époque, il y avait de l'insécurité. Mais est-ce que vous avez vu Kabangé avoir peur de descendre sur le terrain lorsqu'on a saccager les centres de riposte? Mais pourquoi ne pas les reconstruire dans le plus bref délai, identifier les gens qui ont été chassés de ces centres-là et les prendre en charge, créer une sorte, comment on avait dit, on les avait mis dans une sorte de quarantaine, on les a cloisonnés et à partir de là, on a eu à lutter contre la maladie.
J'en appelle au chef de l'État, j'en appelle au Premier ministre. Docteur Kabang est encore en vie, Félix. Le docteur Félix Momat sont encore en vie. Qu'on en appelle un peu au cabinet de Félix Kabang pour donner du punch, pour donner, pour booster les équipes qui sont sur le terrain contre la maladie.
Joël Kadel, vous êtes convaincu
qu'il y a non, mais papa.
Vous êtes convaincu que si on change d'animateur au niveau du ministère de la Santé, vous pensez que la maladie sera vaincue rapidement?
Mais qui est constitutionnellement responsable devant le Parlement, c'est le ministre de la Santé. Si on change le ministre, je vous donne trois mois. Si on prend seulement Félix Kabang, c'est un ancien journaliste. Si on le prend, on le remet dans trois mois, la maladie va.
Bon, finir. Supposons, nous allons bientôt clore notre émission. Nous sommes déjà dans la période de conclusion. Vous pensez que si on nomme une autre personne à la tête du ministère de la Santé, il y a et le personnel et le budget qu'il faut pour vaincre assez rapidement cette maladie.
Mais c'est tout ce qu'il faut. Il faut une nouvelle vision. Il faut un leadership convaincant, convaincu et engagé. Et cela, nous l'avons vu dans un fils de ce pays qui a travaillé et qui a lutté aussi contre Ebola et y a mis fin. C'est un ministre qui était également dans le gouvernement. C'est la jalousie des Congolais. C'est question de faire référence à la même équipe. Le docteur Muyembe est là. Il a dit qu'il y avait un problème d'insécurité. Il y a un problème de manque d'engagement politique dans le chef du ministre de la Santé publique. Pourquoi? Parce qu'il ne maîtrise pas les réalités du pays. Et il a truffé son cabinet de ses enfants qui ne connaissent pas également le pays, qui sont nés, qui ont grandi en Belgique. Ils ne maîtrisent rien du pays. Et conséquence, il ne court que derrière la mangeoire, l'argent et consorts, et il ne s'intéresse pas aux réalités de nos frères, non seulement qui ont été, mon confrère a compati tantôt, qui ont connu les affres dans ce pays. Il n'y a pas un territoire qui a connu autant d'affres que Beni, que Butembo, que Ituri. Mais qu'on puisse les laisser dans cet état-là, il y a non-assistance aux personnes en danger, et j'en appelle à la responsabilité, à la conscience du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour qu'il change en toute urgence, qu'il mette un peu un programme d'urgence pour nos frères qui sont encore en train de mourir.
Joël Kadenga, il y a parmi les équipes qui sont sur le terrain, il y a des acteurs indépendants, notamment les organisations internationales, et l'une d'elles, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Mais vous pensez que ce que vous dites, si l'OMS avait constaté cela, elle n'aurait rien dit, elle n'aurait
non,
pas réclamé.
Non, mais à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé, papa? Nous étions dans les conférences de presse avec vous. Il y a une centralisation, même si l'OMS intervient, même si Bill Gates, que l'on accuse d'être à la base de la propagation de la maladie, même s'il y avait d'autres organismes au niveau international, au niveau continental, qui intervenaient, il y a, l'action doit être coordonnée par le ministère de la Santé publique. Mmh. Aussi longtemps qu'il manque une vision, qu'il manque la maîtrise des réalités de terrain par le ministre, rien ne peut évoluer.
Merci Joël Kadenga. Vraiment, en 15 secondes, qu'est-ce que nous pouvons retenir de nos deux sujets de ce soir?
Je félicite le retour fracassant de la République démocratique du Congo sur le plan continental, du président de la République qui donne de la voix. La RDC a fait pendant 18 ans, elle était inaudible. Aujourd'hui, la RDC est audible. On sait entendre le point de vue de la RDC. Et je crois, dans les 5 prochaines années, nous reprenons notre leadership tant au niveau continental qu'au niveau international.
Merci Joël Kadenga. Pius Romain Roland, en 15 secondes, qu'est-ce que nous pouvons retenir de notre débat de ce soir?
Ben, il a beaucoup parlé. Moi, vous me demandez seulement de conclure.
Le temps est correctement réparti. Allez-y.
Ok, c'est pas un problème.
Vous avez parlé avant lui. Lui, il venait de terminer. Je vous remets la parole.
Je me dis que le Congo est debout. Le Congo est debout depuis longtemps. C'est pas que avec l'actuel régime, le chef de l'État, Joseph Kabila, à la tribune des Nations Unies, l'avait dit, le Congo était debout, sauf que le Congo était dans les viseurs des prédateurs.
Merci Pius Romain Roland Goy, merci à tous les deux pour ce soir. Jean-Claude Nsiala à la technique, Kéline Koulté à la réalisation, supervision Pelé Kipela Mondo, Dona Madimba, c'est moi, à la présentation, tribune de presse pour ce soir. C'est fini, merci de votre attention, au revoir.